onction métal d'un seul coup. Noise pollution.
Je ne vois pas comment une société responsable peut fermer les yeux devant ce genre de choses en prétendant que c'est un divertissement inoffensif.
Noise pollution.
Je voudrais savoir si les paroles qui accompagnent cette musique sont aussi sataniques que les images.
Il y a le power metal, la nouvelle vague du heavy metal britannique, le metal progressif, le glam metal, le pop metal, le stoner metal, le hardcore, le thrash metal, le grunge. Je crois toujours que cette musique n'est qu'un divertissement inoffensif.
Noise pollution.
Voilà donc 20h pile à la pendule de ma montre. Puisque la
oui, pendule... parce que la pendule de Radio Canu indique, on ne sait pas trop, 8h moins 10,
voilà, 15. C'est, ouais, c'est ça, mais elle est, c'est le décalage horaire canusien qu'on appelle chez nous.
Oui, c'est lié au caractère un peu extraterrestre de Laurent qui, lorsqu'il pénètre dans une pièce, dérègle systématiquement
le temps. Le temps, ouais. En fait, surtout.
C'est surtout, oui, ça fait peur des fois.
Voilà, tout à fait. Nous allons rester ensemble pendant une petite heure.
Enfin, ça, c'est le choix des auditeurs. Genre, s'ils veulent sortir et éteindre la radio, ils peuvent le faire.
Voilà, mais... si vous écoutez que les plages d'information de Radio Canu et que vous n'aimez pas le métal, effectivement, nous vous conseillons d'aller faire autre chose.
Néanmoins, on a les noms des personnes qui, voilà,
qui arrêteraient de nous écouter. Et nous voilà. Pouvons signaler tout de suite que dans une heure, il y a une émission de punk. Donc, ça va être un peu guitare, hein, la programmation de Radio Canu pendant deux heures.
Oui. Donc vous êtes là, frais et dispo, prêt pour votre ration hebdomadaire de métal qui fait mal.
Et on va commencer par un truc pas très neuf, mais pas très vieux non plus. Il s'agit du dernier album en date de Megadeth. Alors non, c'est pas une exclusivité, nous n'avons pas le nouvel album qui sort d'ici un petit mois.
Ah bon ?
Qui s'appellera 13, le 13,
je pense. Pour le 13e album, je pense.
Attendez, Dave Mustaine est pas la moitié d'un con.
Ah bon.
Bon, il est un peu caractériel, un peu bête, un peu tout ça, mais il est pas con. Oh, il a bête, compté 13e album, je l'appelle 13.
Bon. C'est bien ça. Il aurait appelé 14, on serait fait. Ah là, non.
Et bientôt, je te présenterai un album qui s'appelle 3 et c'est le deuxième du groupe.
Ah bah oui, mais ça, c'est parce que les mathématiques, c'est compliqué. Ouais. Et oui, il faut pas croire, attention. Hein.
Non. Alors, donc là, c'est le dernier album en date, celui sorti en 2009. Ça s'appelait Endgame. Alors, Megadeth, ils ont eu une carrière un peu.
En dents de scie, on dit.
Un peu ça. Il y a eu une période de creux qui était aux alentours de l'album Risk, là, avec ces albums très, beaucoup moins trash, plus heavy, voire commerciaux, entre guillemets, enfin, très orientés radio américaine.
Ça correspond un peu au départ de Marty Friedman aussi, il me semble.
C'est une période peut-être qu'il était encore même sur ces albums-là.
Ça correspond peut-être aussi à une période où Monsieur Mustaine abusait d'alcool et mais depuis, il a rencontré Dieu.
Ouais, non, je pense qu'il voulait faire du tube, en fait, aussi.
Ah oui.
Il était jaloux de Metallica. Depuis
mais il est toujours, je crois.
Il l'est toujours. Ouais. Et il voulait faire du tube. Et alors, depuis deux albums, ils y avaient splitté, et puis ils se sont reformés, bah, Megadeth.
Oui.
Et donc, avec un peu des nouveaux musicos, on a perdu le gratteur, on a perdu Marty Friedman, on a perdu un peu tout le monde.
Moi, je crois qu'il y a eu le retour du bassiste pilier du
historique.
Groupe, Dave Effelson, je crois qu'il s'appelle.
Et donc, depuis deux albums, The System Are Failing, l'avant-avant-dernier, et puis Endgame, donc, qui est l'avant-dernier.
Le System Has Failed.
Oui. Ah, c'est ça, Has Failed.
Il est
cassé. Et là, Endgame, fin de partie.
Fin du jeu. On pensait qu'il allait arrêter après.
Et ben, ouais, c'était un peu perçu comme ça, mais non, puisque le 13e sort d'ici un mois. Alors, c'est pas le meilleur album du groupe, mais c'est pas le pire.
Oui, le meilleur reste Rust in Peace, à mon avis.
Ouais, ça se discute. Moi, je suis très fan de Killing Is My Business.
And Business Is Good. Ouais, ouais. Écoute.
Bon, bref. Ça...
On va pas faire les vieux, un peu
non.
Genre.
Mais il y a de bons morceaux. Ça ressemble à du Megadeth et on retrouve un peu toutes les périodes dans ce disque. Je vous propose Bite the End, donc Megadeth. a une petite mise en bouche pour nous préparer au prochain album, le 13e qui sortira donc d'ici, je crois, un mois et demi. J'ai plus la date en tête, mais ça arrive très bientôt. Donc les Megadeth, extrait de cet album Endgame, donc était donc sûrement le 12e.
Probablement. Je non, pense que Mustaine a l'air de savoir compter jusqu'à 20. Donc a priori, ça devait bien être le 12e. On revient maintenant en 1989 avec un groupe qui a eu son heure de gloire au tout début des années 90. Enfin, groupe, le terme est peut-être un peu galvaudé.
C'est le projet solo d'un musicien.
Qui s'appelle Jeff Waters, canadien. Le groupe, enfin, puisque visiblement, lors de la signature du deal pour le premier album, il fallait que ce soit un groupe. Donc il a appelé ce projet solo, puisque sur le premier album, celui qu'on va vous diffuser, qui s'appelle Alison L, il avait quasiment tout enregistré tout seul, sauf le chant. Le groupe, c'est Annihilator. Très très bon album. Hein. Le groupe a sorti deux très très bons albums en deux ans, en 89 et 91.
Des albums qui font référence encore aujourd'hui en
trash. Ouais. D'ailleurs, il y a un lien logique, il y a un petit lien entre Annihilator et Megadeth, c'est que Jeff Waters avait aussi auditionné pour être au poste de guitariste de Megadeth. C'est du trash heavy, alambiqué, avec des parties de guitare vraiment très...
C'est un tueur à la guitare. Il n'y a pas d'autre mot. Il pond du riff incroyable, il fait des solos de fou.
Ouais, exactement. Alors, ils ont même ouvert pour Judas Priest à l'époque du deuxième album, avec Pantera. Je me rappelle que Pantera ouvrait, Annihilator arrivait derrière, et c'était la cata, parce que les gens d'Annihilator ont de graves problèmes avec la boisson et sur scène ça se ressentait énormément. Et on à l'époque ils étaient vraiment roue dans roue avec Pantera, et on sait ce qui est devenu Pantera.
Et on sait ce qui est devenu. Alors Annihilator, contrairement à Pantera, existe encore. Les albums sortent
régulièrement
et ils sont plutôt bons ces dernières années.
Ouais.
Mais
bon,
mais on est loin. Ils n'ont jamais percé dans le grand public.
Ils ont raté le coche, comme on dit. Hein, ils ont raté la première division, quoi. C'est un bon groupe de CFA, pour avoir une métaphore footballistique.
Salaud. Moi, je suis très fan de Megadeth, dont j'ai tous les disques.
Ah bah moi j'ai les deux Megadeth. De Megadeth
aussi,
s'il te plaît.
De Annihilator, où j'ai tous les disques.
Ah, moi j'ai que les deux premiers.
Voilà. Et j'avoue que voilà, le jeu de Jeff Waters, il y a même sur un album, il chante lui-même tellement qu'il est allé loin dans le.
Oui. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle parce que pour l'anecdote, la pochette du premier album où on voit des musiciens, il y a des musiciens qui ont jamais joué une partie, une note. En fait, il les a pris que pour la photo. Voilà. Mais c'est voilà. On écoute un morceau de cet album 89 qu'il faut avoir dans sa discographie métallique.
Si on a le trash, ouais,
oui, avec une voix quand même assez gutturale. Le chanteur changera pour le deuxième album. D'ailleurs, il changera régulièrement le chanteur, avec une voix un peu plus mélodique. Welcome to your death, c'est le morceau qu'on va s'écouter tout de suite maintenant. Les Canadiens d'Annihilator, toujours en vie. Là, c'était le premier album. Ils avaient d'ailleurs fait une tournée à l'époque, en 89, en première partie d'un groupe anglais que tout le monde a oublié, qui s'appelait Onslaught. Et ils avaient joué
tout à fait
dans quelques villes en France, devant, je pense, 15-20 personnes. Mais bon, voilà. Moi, j'y étais pas. J'ai pas eu l'occasion ni le privilège de les voir sur scène. Enfin,
moi, je les ai vus il y a pas longtemps et j'avais été ultra déçu. Mais c'était la tournée du dernier album.
Ouais, voilà.
J'avais pas trouvé ça fabuleux. Voilà.
Mais bon.
Et alors, on change de style. Là, on a fait quand même deux morceaux un peu trashisants sur les bords. Hein, on peut le dire.
Enfin, c'est pas nous qui les avons fait. On les a juste diffusés.
C'est vrai, c'est vrai.
Exprimons-nous dans un français que tout le monde puisse comprendre.
Voilà. Donc là, on change de style et on va plutôt vers le métal progressif avec le leader du genre, hein, presque le groupe qui a inventé le style. Alors, c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Fates Warning et Queen's Thrash sont passés avant.
Ouais, exactement. Ouais. On oublie souvent Fates Warning, mais...
qui est, à mon avis, le groupe le plus important de métal progressif.
Exactement.
Au niveau influence, mais depuis est arrivé Dream Theater, donc rappelons-nous, Jean-Pierre, Images and Words, la claque que ça a pu être à la fin des années 80.
Oui, c'est vrai.
Et le groupe continue. Alors certes, il y a eu le petit départ du leader, un peu du groupe, qui était le batteur.
Oui, qui s'appelle Mike Portnoy. Tu as des trous de mémoire, donc moi non, je te donne les noms.
Bien.
Tu connais pas les noms, toi.
Mais... tu peux m'aider.
Oui,
qui
bah
a été remplacé par Mike
Mangini. Je t'emmènerai tout à l'heure faire pipi, hein, si tu as besoin.
C'est Alzheimer. Parce
que il me semble que ta petite poche est pleine.
Oui,
il faut la vider.
Oui. À mon âge. Hein. Ah. Et donc, ils nous sortent un nouvel album.
T'as pas fait caca sur toi, c'est bon.
Non, tout va bien. A Dramatic Turns of Events. Donc, nouveau Dream Theater sans le batteur historique.
Oui.
Dream Theater, il y a les claviers qui changent souvent aussi. Mais là, on a Jordan Rudess qui est là depuis un petit moment maintenant. Alors, si vous lisez le dernier record, là, celui avec Alice Cooper, vous avez la chronique de Stéphane Ozillo qui s'enflamme.
Oui, mais c'est normal.
Il s'enflamme.
Connaissant le bonhomme et ses activités, puisque c'est un peu c'est un fan de la première heure.
Ah bah ça, on peut confirmer. Oui. Ce qu'on peut dire de cet album...
Il a presque parfois même eu des rapports sexuels avec tous les musiciens en même temps.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il a beaucoup fait pour le groupe en France.
C'est vrai.
Ça on peut
c'est
pas
vrai,
l'enlever.
C'est vrai. Et le groupe lui a beaucoup fait.
Ça, c'est lui qui pourra te raconter. Moi,
lui, il a un avis un petit peu pas forcément très objectif. Il trouve ça génial.
Lui, il avait été déçu par ceux d'avant. Alors que moi, cette semaine, j'ai beaucoup écouté ce disque. J'ai réécouté l'avant-dernier, qui s'appelle, je me rappelle jamais de son nom, Black Clouds and Silver.
Ah, mais tu perds vraiment la mémoire. T'as des notes, en fait.
Là, j'ai noté le nom.
Attention.
Et que je trouve bien mieux. Cet album est bien, mais il y a, trois morceaux qui sont très calmes, et moi, au bout d'un moment, les morceaux calmes, ça m'endort.
C'est vrai.
Donc, je vous propose quand même.
C'est l'âge aussi, c'est parce que tu prends pas tes cachets aussi.
C'est quand je prends pas mes cachets. Alors, là, j'ai pas besoin de prendre mon cachet. Alors, j'ai trouvé un morceau à peu près passable en radio, parce que vous rappelez que
Diffusateur,
ils font des morceaux de 12 minutes minimum. Là, j'ai un morceau un peu long, 7 minutes, mais bon, tant pis. Build Me Up, Break Me Down, deuxième album. Deuxième
titre.
Ah ouais, deuxième.
On dirait un tube de Hard FM.
Ouais, c'est John Petrucci qui écrit les paroles. C'est le deuxième morceau.
Et de quoi ça parle?
J'ai pas lu.
Tu me passeras le livret.
Ouais, je te file le CD là. C'est le deuxième morceau de ce nouveau disque de Dream Theater. Jean-Pierre. Jean-Pierre.
Pardon, c'est moi qui ai oublié de prendre mon cachet. Je me suis endormi pendant ce morceau.
Donc, le nouvel album de Dream Theater, A Dramatic Turn of Event. Donc voilà, ça reste du Dream Theater traditionnel, c'est-à-dire ce métal progressif avec ce chant qui est quand même très mélodique. Moi, je trouve que les mélodies sont un petit peu faciles, mais voilà.
Les paroles d'ailleurs, j'ai regardé. C'est...
Oui, bon. Voilà. Et les morceaux longs sont vraiment, moi, je trouve très très bien. Et bon voilà, c'est un peu plus calme que l'album d'avant qui était un très très bon Dream, alors qu'avant ils ont eu une petite période de creux aussi, mais ça arrive un
donc
peu.
Donc une bonne cuvée,
plutôt une bonne cuvée quand on aime
le recommanderiez-vous à un ami?
Oui, je le recommande à un ami. Voilà, c'est fait, ça y est, c'est dit. Je recommande le Dream Theater. Mais par contre, faut aimer le métal progressif quand même, avec des solos de tous les instruments un peu partout.
Avec un petit bémol, alors un ami qui aime le métal progressif.
Mais je t'ai connu à des concerts de Dream Theater.
Mais ouais, non, mais moi j'aime beaucoup.
À Paris, tout ça.
Oui, même en Allemagne. Je me rappelle, on est allé
à Donaichingen.
Tu te rappelles?
Mais je me rappelle du nom de l'endroit où on a vu.
Ça sentait bon la choucroute, je crois. Non, le chou, ça sentait le chou partout.
Je crois que c'était pour la tournée de Change of Season.
Je sais plus. Je me rappelle, ça ressemblait à un halo à Bestio.
Ouais,
c'était bien.
C'était très bon concert.
C'est vrai. Avec Fast Warning en première partie. À l'époque, on parcourait des milles et des cents pour voir
Dream Theater.
Metal. Voilà. On rentrait dans la nuit, tout ça.
Quand on était jeune, quoi. Avant la maison de retraite.
Oui, voilà. Depuis, on peut pas. Parce qu'ils ont mis des barreaux à nos fenêtres, ils nous laissent pas sortir. En plus, ils nous donnent des petits cachets pour qu'on dorme très très vite le soir. Laurent, ils lui mettent juste un morceau de Dream Theater. On poursuit avec un groupe qui, lui, n'a rien à voir
ça
avec.
Ça va dépoter.
Exactement, ça va dépoter, c'est un peu fait exprès en fait, parce que sinon les auditeurs s'endorment, ils se réveillent, il est tard, et voilà, ils sont déçus, ils ont raté. Là on va les réveiller un peu avec un groupe défunt malheureusement, At The Gates, un extrait de leur dernier opus, sorti en 1995, un album énorme, avec un son énorme qui s'appelle Slaughter of the Soul. C'est du death metal scandinave, vraiment, vraiment l'un des meilleurs albums dans cette veine un peu heavy death, où il y avait aussi, on trouvait... c'était la New Wave of Swedish Death Metal avec Dark Tranquility, tous ces groupes-là.
Avec des influences heavy, mais pas dans le chant. Hein. Dans le chant, ça,
le chant est hurlé, mais il a une très belle voix dans le style. Moi, j'aime beaucoup. Un groupe suédois, hein, bien sûr. D'ailleurs, je les avais vus plusieurs fois sur scène, et c'est vrai que c'était très très bien. Malheureusement, après cette tournée qui les a un peu épuisés, le groupe a splitté parce qu'ils étaient trop fatigués, ils n'en pouvaient plus. Ils sont reformés il y a 2-3 ans, ils ont fait d'ailleurs des tournées dans les festivals, et c'était plutôt bien. Le morceau s'appelle Suicide Nation, qui est un morceau qui traite justement du problème du suicide en Suède, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui et de vieux qui se suicident en Suède, et puis bon, voilà, mais je crois que c'est toute la Scandinavie qui a un problème avec, ouais, avec ça.
At The Gates.
Voilà, alors que nous étions en plein débat sur le métal et les groupes obscurs. Alors, qui connaissait le
premier chanteur de Fetus Warning?
Ouais, voilà.
C'est ça la question.
Qui doit être mort? Non, il est pas mort.
Non, parce qu'il vient de sortir, hein, mais on en reparlera peut-être
oui,
plus tard.
Peut-être plus. Bon, là, c'était At The Gates, ou qui parlait justement du suicide, mais est-ce que ça a donné des idées à certains hommes politiques? On ne sait pas.
Mais ils n'ont pas eu de procès comme Ozzy Osbourne ou Judas Priest avec le suicide un peu?
Non, non, je sais pas. Mais j'ai du mal à savoir de quoi parlerait. Non, je pense que c'est juste une dénonciation du système. Enfin, voilà, qu'est-ce qui conduit les gens au suicide en Suède, à part le climat? On ne sait pas trop. Hein. C'est difficile.
On n'est pas assez suédois.
Non. Mais toi, tu vis avec une Suédoise.
C'est vrai.
Oui, mais bon, si elle a quitté la Suède, c'est qu'elle est...
C'est qu'elle est, voilà. Voilà. Avec une Suédoise, dis donc.
Mais oui, tu le sais pas.
Mais non.
Et non, elle est suédoise dans l'intérieur.
Alors, oui. T'avais un truc à nous dire, là?
Rien du tout, à part que c'était At The Gates, Slaughter of the Soul, un album de 95, qu'il faut aussi posséder dans sa discographie. Moi, je pense que des albums essentiels, de toute façon.
C'est vrai. Il a fait la quintessence de
voilà,
sa discothèque.
Voilà, la substantifique moelle, comme dirait Robert Rabelais. Et... Ça fait pas Robert d'ailleurs, Rabelais. Non, Bob, ça faisait RR.
Bob Rabelais.
Quelle culture? Attention, on bascule entre France Culture, France Inter et Radio Canu.
Ouais.
On
aussi... Parce que le métal sur France Culture, c'est pas gagné. Hein.
Pas encore, mais on y travaille avec Laurent, puisque on essaye un peu de démarcher. Ouais. On envoie tous nos podcasts à France Culture.
Ouais. Alors, c'est la moitié de l'émission, je me suis dit que je vais faire les concerts au milieu.
Oulala, attention. Là, il y a du travail.
Et en plus, je les ai mis dans l'ordre.
Incroyable. On sent qu'on là, on est prêt. France Culture nous attend.
Alors, j'ai mis le prochain que j'ai vu les affiches cette semaine. Les Melvins jouent le 2 octobre à 20h à l'épicerie moderne, c'est à Faisin.
Et c'est ça qui est un peu ennuyeux.
C'est une salle sympa quand même.
Mais c'est loin.
Ouais.
Enfin, en bus, c'est impossible d'y aller.
Non. Bah si, tu peux y aller.
Oui.
Mais tu peux pas revenir. Ouais, ouais. Mais en faisant du stop, tu trouves toujours quelqu'un pour te ramener sur Lyon.
C'est sûr. Ou pour te découper sur les quais.
Non, c'est le choix. C'est sympa le public des Melvins en plus.
Oui, oui, mais enfin bon, tu te fais pas forcément ramener par le public des Melvins.
Ed Guy, ça sera le 12 octobre à 19h au Transborder avec Kotak en première partie. Kotak, c'est le groupe c'est le nom du batteur de Scorpion et qui fait un groupe de punk rock sans intérêt.
Ah oui.
Oui. Symphony X.
Tu l'as bien vendu là. Ouais. Les gens, ils vont y être à 19h au Transborder.
Pour voir Kotak. Symphony X, le mercredi 19 octobre à 19h au Chaos avec Pagan's Mind et DGM en première partie. Doro le jeudi 20 octobre à 19h au Chaos. Pain avec Tarot en première partie le 26 octobre au Chaos, 19h aussi. Amon Amarth le 28 octobre, c'est à Saint-Etienne. Je l'ai mis quand même parce que je me suis dit c'est pas très loin. Il y a des c'est un groupe qui a beaucoup de fans. Amon Amarth.
Oui, bah c'est du viking metal, hein, donc voilà. Faut y aller en Drakkar.
Faut y aller en Drakkar, mais il y a pas de fleuve qui va jusqu'à Saint-Etienne.
Ça me semble pas, moi, que la géographie est changée. On peut tout imaginer.
Donc c'est à 20h au fil. Je connais pas du tout, mais c'est au fil. Le fil à Saint-Etienne.
Je fréquente pas.
Il y a les copains de Jean-Pierre qui jouent les Alter Bridge, puisque depuis que Jean-Pierre s'est converti, il va avoir que les groupes néo-chrétiens,
Néo, ils sont pas néo, ils sont
chrétiens tout court.
Bah, attendez, s'il vous plaît.
T'as dit crétin?
Chrétien? Non, c'est toi qui l'as dit, s'il te plaît.
Par contre, il y a les Blackstone Cherry en première partie, ce sera plus sympa. Le lundi 31 octobre au Transborder à 20h. Alice Cooper le 6 novembre à la Altony Garnier. Surf le 9 novembre au Transbo. Scorpion le 14 novembre à la Altony Garnier. Les Uncommon Men from Mars le 15 novembre au Chaos. Amorphis avec Dagoba le 17 novembre au Chaos et je termine par No One Is Innocent à la MJC du Totem à Rieux le dimanche 11 décembre.
Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15, de toute façon on répond pas.
Voilà, et sinon vous podcastez l'émission sur le blog de l'émission.
Voilà, donc tu vas donner l'adresse.
Pas du tout, mais par contre, vous tapez Noise Pollution Radio Canu, vous tombez dessus et vous serez
exactement
heureux.
Et vous pouvez écouter toutes les anciennes émissions et les faire connaître dans votre entourage.
Même le sang des dièses, non, on n'en a pas.
Ah bon? Cela pourrait être drôle, ceci dit.
Ceci dit, mais moi, j'en ai pas.
D'ailleurs, on en est à quel numéro d'émission?
Je sais pas, doit être 20.
D'accord, il faudra célébrer le 666e.
Ouais, mais on a encore un peu de marge. Donc, on poursuit avec le nouvel album d'Anthrax. Je vais présenter un morceau la semaine dernière. Il est sorti cette semaine. Worship Music.
Quel album c'est, numéro?
Worship Music. Ah, j'ai pas compté du tout. Donc, je peux pas vous dire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est le retour du Fils de la Vengeance de Joe Belladonna, le chanteur historique. Enfin, sur les trois albums mythiques du groupe. Parce qu'il n'était pas là sur le premier album.
Oui, quand même, le Fistful of, je sais pas quoi, Metal, je crois.
Fistful of Metal, tout à fait. Et donc voilà, moi je trouve ça assez sympathique de réentendre Belladonna faire des trucs bien. C'est un bon album d'Anthrax aussi, parce que c'est plutôt pas mal fait. C'est que ça l'orne du côté du trash un peu old school, hein, mais Anthrax, oui, c'est resté Anthrax.
Bah, de toute façon, ils ont 50 balais maintenant, donc ils portent plus de Bermuda, je pense, parce qu'on pourrait voir les couches sous les Bermudas.
Eh ben si, parce que je crois qu'ils ont pas beaucoup changé de look, surtout Scott Ian.
Ah oui.
Et ben ça maintient jeune en fait le métal. Mais il faut jouer de la musique, faut pas faire des émissions de radio.
Dis donc.
Donc je vous propose The Constant, extrait du nouvel album d'Anthrax. Ah, c'était pas ça du tout, mais ça va venir.
Et voilà, l'erreur technique de la semaine. Toutes les semaines, il en fait une. C'est pour ça qu'on n'est pas sur France Culture.
C'est peut-être pour ça. Mais si on était sur France Culture, on aurait un technicien.
C'est vrai?
Ouais. And how it is, I know you. Something's wrong.
Tu as compris, Burn It Down.
Yes, j'ai mis un morceau un peu cool, c'est pas le morceau le plus trash du disque, mais voilà, c'est un grosso modo un assez bon disque pour ceux qui sont nostalgiques du Anthrax avec Monsieur Belladonna au chant, dont je fais partie des fans quand même, parce que j'aime bien.
C'est une bonne chose, c'est une bonne chose.
Donc voilà, il est l'heure de passer au prochain groupe.
Oui,
celui qui est... tu m'as fait signe, j'ai compris.
C'est pas évident de travailler avec l'handicapé, hein.
Non, c'est sûr.
Voilà, donc c'est l'heure de rendre hommage, donc comme nous le faisons toutes les semaines, hein, un valeureux guerrier du métal décédé tombé pour la cause. Alors malgré tout le courrier qu'on reçoit, comme quoi c'est une rubrique un peu nécrophile, on a encore quelques courriers dans ce sens, et qu'il faudrait qu'on arrête, tout ça, on ne va pas arrêter, on va continuer à rendre hommage au valeureux guerrier du métal tombé pour la cause. Celui-là est tombé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est James Gray, le bassiste de Slipknot, moi non plus, pas personnellement.
Donc, je crois que j'ai jamais écouté Slipknot, mais je vais écouter.
Ah bah si, parce que je crois que j'en avais diffusé au moment où...
Du sang dédié, c'est
oui, il me semble.
Ouais, non, mais je veux dire, quand je dis j'écoute pas...
Et t'as subi, ça, quoi, t'as dû subir.
J'ai subi.
Mais Slipknot, alors, moi, j'aimais beaucoup le groupe quand ils ont émergé.
C'est ceux qui ont des masques, là.
Voilà, mais justement, James Gray, il est mort à cause de ça, en fait. Il allait dans une banque avec son...
Attention, il va sortir une connerie.
Non, mais c'est pas une connerie, il est mort à cause de ça. Il allait dans une banque avec son masque et du coup, ils l'ont pris pour un brigand et aux États-Unis, bah, il s'est fait dégommer.
Ouais. Bon, bref.
Non, c'est pas vrai. On sait pas de quoi il est mort. Je pense que c'est de la drogue parce que, de toute façon, voilà. Donc, Slipknot, pour revenir, quand ils ont émergé, là, au début des années 90, c'était vraiment un concept un peu radical, quoi, une espèce de Kiss sous acide, des masques fous furieux, des gens sur scène qui sont là que pour faire les pitres.
Musicalement, c'est version néo-métal, c'est ça?
Ouais, néo-métal rentre dedans. Les deux premiers albums sont bien foutus sur scène. C'est hyper dynamique. Moi, je me rappelle les avoir vus à Lyon à cette époque-là. Ils avaient tout cassé. Bon, ils jouaient pas très longtemps, une heure et quart. Mais Duke, c'était puissant et ça faisait mal aux oreilles. Mais depuis, ces deux premiers albums, c'est un petit peu parti en autre boudin.
Pourtant, ils ont toujours du succès quand même, les
petits. Ouais, mais ils ont un peu chopé la grosse tête. Moi, je me rappelle d'un incident au Hellfest où ils avaient fait leur star et puis ils avaient demandé un cachet monumental. Ils s'étaient fait jeter par le public. D'ailleurs, c'était très très drôle. Le public du Hellfest qui avait appris qu'ils avaient réclamé des sous de malades et que le festival était au bord du dépôt de bilan. Du coup, ils avaient jeté, je crois, tout et n'importe quoi sur scène. Et d'ailleurs, je crois qu'il en parle encore dans des interviews. Le chanteur s'était pris un lapin mort.
trouver un lapin mort.
Oui. On trouve qu'il faut être motivé pour aller au Hellfest avec son petit lapin mort. Voilà, donc James Gray, il est mort. On va lui rendre hommage en passant un extrait du premier opus. Ça s'appelle Surfacing, les clowns de Slipknot. We'll be right back. Les vaillants américains de Slipknot, donc dédicace à James Gray, Rest in Peace, voilà. Et je pense qu'on va arrêter cette rubrique à la fin de l'année parce qu'on va manquer de morts.
Ouais, c'est ça. Ou alors, ce que tu proposais finalement, c'est que nous, on se mette à les tuer pour remplir la rubrique.
Parce nous, que sinon... quelqu'un d'autre, parce que grosso modo, c'est quand même prendre des risques. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait. Bon, c'est vrai qu'on connaît quand même pas mal de groupes de métal qu'on aimerait voir cesser leurs activités. Parce
voilà, par contre, il y a ceux qu'on aimerait voir mourir, mais c'est des groupes qu'on n'aime pas forcément, donc on va pas les passer. Non.
Ben voilà, ça serait leur rendre. Voilà. Mais par contre, on peut évoluer vers une rubrique de mutilés. Des groupes qui ont.
Qui ont un mutilé.
Je pense qu'il y a...
Ou un handicapé. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein.
Non. Mais ça pourrait être intéressant.
Mais des mutilés du métal.
Oui. Ben, y a des flépards déjà, mais après, moi j'ai. Et puis on a eu un débat en tête sur un groupe. On va mener notre enquête. On pense qu'il y a un autre groupe de trash qui a
un chanteur en fauteuil roulant.
En fauteuil roulant. Ouais. Ce qui complique le stage diving.
Oui, pour lui en tout cas, oui. Quoique, pour avoir vu des images au Hellfest où il est porté par la foule, attention.
Oui, il faut se préoccuper du fauteuil.
Voilà, ben, avec le fauteuil. Un truc de dingue. Donc, nous poursuivons avec un groupe méconnu, mais vraiment très méconnu, qui ont sorti 4 disques.
Incroyable.
Dans les années 90.
Mais je le connais, moi, ce groupe.
Qui viennent d'Allemagne de l'Est. Alors, à l'époque
L'Allemagne de l'Est.
Oui, à l'époque où l'Allemagne était une partie à l'ouest, une partie à l'est, ce qu'on appelait la RDA.
RDA, la fameuse RDA.
La fameuse RDA. Et donc, c'est le groupe Depressive Edge, qui a sorti donc 4 albums. Un groupe très original dans la voix, notamment.
Dans les voix, parce qu'il y avait deux chanteurs.
Ouais, mais alors, sur les deux derniers, il y a quasiment que le chanteur mélodique, qui s'exprime.
D'accord. Mais moi, je les avais même vus sur scène. Alors, je me rappelle pas avec qui, mais je me rappelle qui je les avais vus.
Donc, je vous propose, je crois que c'est le dernier album, qu'ils ont sorti. Après, ils ont refondé le groupe. Ils ont sorti un disque sous le nom de The Edge. Mais j'ai pas écouté. Donc, Depressive Edge, c'était en 1995. Cet album s'appelle Symbols for the Blue Times. Et le morceau, c'est Garbage Canyons. Une voix qui est très à part pour le métal. Une voix plus rock, presque gothique à des moments. À l'ancienne version, quand on avait Sister. Enfin, une voix un peu particulière. Moi, je vous laisse découvrir ce groupe excellent, qui avait des influences un peu trashisantes sur les
côtés. Ouais, c'est ça, trash heavy, un peu mélodique.
Depressive Edge.
Voilà, Laurent, c'est une fois de plus endormi, pas ça devient tout, très très tout. Difficile de le maintenir réveillé. Oh Laurent, je sais qu'à cette heure-là, habituellement, tu dors, fais un effort.
Ouais, je me couche à 8h30 d'habitude. Et oui. Mais n'empêche que je suis très très fan de Depressive Edge, groupe méconnu, et vous avez pu vous rendre compte que la voix était très particulière. C'est le quatrième et dernier album, si je me trompe pas, Symbols for the Blue Times. Depressive Edge, les deux premiers sont plus agressifs, puisqu'il y a une deuxième chanteur qui est un peu deaf au niveau
une
de la voix.
Un deuxième chanteur,
ouais. Et je débute aussi en français. Et par contre, les deux derniers sont beaucoup plus mélodiques. Voilà, groupe qui n'a malheureusement jamais eu beaucoup de succès et c'est bien dommage.
C'est vrai, mais bon, je crois qu'on diffuse quasiment exclusivement des groupes qui n'ont pas beaucoup eu de succès. Enfin, des succès un peu confidentiels, non, dans le microcosme métallique. On pensait avec Body Count qui a eu un petit succès. Body Count, c'est quoi? C'est le projet métal de Ice-T. Ice-T, on le connaît.
C'était pas un rappeur.
C'est toujours un rappeur. Il a fait aussi un peu de cinéma et de et quelques séries télé. Et puis il a fait du rap aussi. Là, c'est un projet métal. C'est plutôt très très bien. Le premier opus sorti il y a un moment quand même. Ça doit dater de 90, 91. Était à l'époque très très bien. Il a malheureusement un peu vieilli, et pas forcément. C'est pas comme le vin, ça se bonifie pas forcément avec
pas
le
toujours.
Temps. C'est sur cet album qu'il y avait le morceau d'ailleurs Cop Killer, qui avait fait un scandale, qui avait été retiré quelques semaines après la sortie de l'album. Mais moi j'ai cette chance d'avoir Cop Killer. On le passera peut-être un jour, je sais pas. Et là, on va s'écouter le morceau qui s'appelle Body Count is in the House, un des morceaux les plus percutants, assez représentatif du style de...
C'est un mélange rap metal, quoi.
Rap metal et Body Count en plus. Enfin, Ice-T nous présente son groupe. C'est bien foutu. Body count, body count, body count. Yeah, motherfucker!
BC, BC, BC.
nous échangions sur la qualité du débat d'hier soir.
T'as regardé, toi?
20 secondes. Je suis tombé sur Ségolène Royal. Elle était habillée, on aurait dit, je sais pas, un shérif de l'Ouest. Et ce qu'elle racontait, c'était d'une platitude absolue. Donc, je suis passé à des activités un peu plus intelligentes. Mais bon. Voilà.
Tu penses ce que tu veux.
Mais exactement, c'est ma liberté la plus totale.
Donc,
il faut quand même rappeler que Laurent et moi, on est quand même, enfin, politiquement, on est plutôt à droite.
Bah, par contre, on est les seuls à Radio Canu. Hein.
C'est vrai.
Mais on n'a pas le choix. Quand on écoute du métal, on est plutôt à droite.
C'est vrai. Et là, Laurent, on va encore se faire goudronner en sortant.
Quoique, on dit ça, en fait, on fait semblant d'être de droite, tout ça. Mais là, tu viens de terminer l'émission avec Body Count, qui est plutôt classé, puis serait plutôt un groupe de gauche.
Oui, mais bon, après, voilà, c'est pas très grave. Mais c'est pas très grave.
Donc le groupe de Ice-T, on a écouté.
Le groupe de Ice-T, oui. Ice-T, dont je me rappelle une prestation extraordinaire à l'émission Nulle part ailleurs, interviewé par Antoine Decaune, déguisé en espèce de je sais plus quoi, qui voulait lui faire sucer son glaçon. Ah oui, il était déguisé en le prince Charles et Lady. Voilà, il y avait Antoine Decaune et son acolyte de l'époque, dont j'ai mangé le nom, mais ça va me revenir.
Monsieur Albert.
José Garcia.
Oui,
il voulait lui sucer le glaçon. C'était qu'il adorait sucer les glaçons, Ice-T, glaçons, tout ça. Ouais, voilà. Voilà. Il comprenait pas tout, il hallucinait. Voilà. Petite anecdote. Pour dire qu'à l'époque, il y avait quand même des chaînes de télé qui mettaient en prime time du métal. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Gouard en live.
Ah oui, c'était très marrant, Gouard.
Très, très bonne émission de me.
Ouais. Non, mais il y a eu quoi? Il y a eu un groupe qui avait fait Tréponenpal.
Oui,
énorme, Tréponenpal.
Stouquette.
Là, on avait vu ça, Stouquette, quoi.
Voilà. C'est un peu.
Du chanteur.
C'est drôle. Ça avait pas forcément, d'ailleurs, déclenché l'euphorie au niveau des ventes. Ils avaient une progression. Couillue, la programmation.
C'est
musical.
Parce que non seulement une émission de droite, mais en plus c'est une émission machiste, mais ça va avec le métal aussi.
Complètement. Jean-Pierre, on va aller entre nos groupies qui nous attendent là.
Ouais, tu vas sortir, Jean-Pierre, s'il te plaît, parce que Radio Canu est une radio de gauchistes.
Oui, de toute façon, j'ai ma Harley Davidson garée en double fil, donc faut que j'y aille. Allez, ciao.
Donc voilà, c'est la fin, on se retrouve la semaine prochaine. 20h-21h.
Oui, normalement c'est ça, mais les punks sont là, sont pas là, ils ont leur skateboard qui a crevé.
Si,
ou quoi,
mais on va mettre un bout d'instrumental, parce que les punks, ils arrivent toujours à la punk.
Voilà, c'est après l'heure.
Et je vais vous donner l'adresse du blog.
Ouf, incroyable. Non, parce que vous encore un de ces petits papiers, ils collent des post-it partout, Laurent.
Vous verrez, quand vous aurez 75 ans et que vous aurez Alzheimer, vous serez comme moi, vous aurez votre petit papier.
Exactement.
Donc c'est blogs, B-L-O-G-S, point radiocanu tout attaché, R-A-D-I-O-C-A-N-U-T, .org/... Noise pollution.
Voilà. Sans l'accent, ça marche aussi.
Oui, alors, noise pollution.
Noise, j'aime bien ça. Oui, tout à fait. On se quitte, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même émission. Progression musicale complètement différente. Et on aura encore, un hommage à rendre à un guerrier du
métal. C'est toi qui feras ça, puisque tu es l'homme qui
rend. J'assume complètement cette passion pour les corps et les cadavres.
Voilà, il te reste quoi? Oh, il en reste encore un peu.
Ah oui. Puis vu le style de vie qu'ont les musiciens de métal, ils vont continuer à alimenter un petit peu
C'est vrai.
Voilà.
Ça meurt. Dans le rock, d'ailleurs.
Ah oui. Puis avec c'est l'hiver, il va faire froid, tout ça.
Amy Winehouse, elle faisait pas du métal, non? Ah non. Non, parce qu'elle est morte aussi.
Ah bah oui, puis Jean Ferrat aussi, hein.
Ouais. C'est vrai. Donc la prochaine fois.
Mais Michael Jackson. Michael Jackson a fait
avec Edward Van Halen.
Mais si on rentre là-dedans.
C'était énorme tout ça. Non.
On pourra le faire. Mon fils doit avoir les disques.
Ouais, Thriller, c'était quelque chose quand même.
Oui, c'est vrai.
Mais après.
Tu fais le moonwalk là, pourquoi? Prends ta pilule.
J'ai toujours été très, très Thriller. Et non, mais.
T'as emballé beaucoup sur Thriller, je me rappelle. On raconte n'importe quoi, il faut qu'ils arrivent les punks parce que là ça va déraper.
Bon, je crois qu'on va mettre l'instrumental.
Ouais.
Mais ils sont pas loin, mais c'est vrai que
on sent la bière.
Ouais, mais ça c'est les émissions de reggae d'avant. Ils sont encore là.
Oh, ils balancent. on va avoir un contrôle d'alcoolémie en sortant, tu vas voir, ça va mal le passer.
Masse. Donc Radio Canu, c'est la plus rebelle des radios, un petit bout d'instrumental et la bande continue, c'est les punks qui arrivent pas, mais vous inquiétez pas, ils sont là.
Avec les animateurs les moins sérieux de la bande FM, je crois qu'on peut
nous.
Peut-être pas nous, mais les animateurs de Radio Canu, marque de fabrique.
Le sérieux, ça tue.
Les blancs, tout ça. Les
erreurs. Je vais lancer le mauvais disque.
Les mauvaises blagues. Allez, à la prochaine, si vous voulez.